pas vous donner, parce que si vous me demandez les origines et les détails sur la gestation de l'entreprise, j'en connais pas tellement, hein.
Ce sont des questions d'ordre très très général.
Ah bon? Je vais me détailler ça.
Personnellement, je crois que d'abord, c'est une question qui personnelle, à laquelle vous avez déjà peut-être répondu. C'est depuis quand vous-même vous êtes à Orléans?
Ah oui, j'ai répondu, oui. Je suis à Orléans depuis 3 ans.
Et vous comptez rester ici?
C'est rien, ça dépend des activités de ma société. On peut très bien m'envoyer dans une autre région, c'est possible.
Pour la société, il y a beaucoup à faire à Orléans, sans doute.
Oui, il y a pas mal, pas mal. Ça dépend ce qu'on appelle beaucoup.
Oui.
Ça dépend ce qu'on appelle beaucoup, beaucoup à l'échelon national. Orléans, c'est pas beaucoup. Le département d'Île-et-Loiret n'est pas un département particulièrement riche. Vous avez des départements comme le Nord, par exemple, qui ont une activité beaucoup plus importante. La population du Nord est évidemment beaucoup plus dense que la population du Loiret. Le Nord est beaucoup plus riche. Alors, disons que nous avons beaucoup à faire dans la région d'Orléans, dans le département du Loiret, par rapport au département du Loiret, mais par rapport à... Si on se place à un échelon national, on ne peut pas appeler ça une grosse activité. Les départements, les Bouches-du-Rhône, le Nord, la région de Bordeaux, l'Est, sont des départements qui sont quand même plus développés que le Loiret.
Oui.
Le Loiret est encore tout petit.
Est-ce que vous pourriez me raconter un peu dans les détails de quoi l'entreprise s'occupe?
Alors, l'entreprise s'occupe de travaux, de routes en particulier. Tout est rattaché presque à l'industrie routière. Alors, on fait tout ce qui touche la route. Aussi bien en usine de fabrication d'émulsions qu'en enrobé, qu'en béton également, béton qui touche la route.
Il y a longtemps que
c'est une
ici.
Oh oui, je crois que les origines doivent remonter à 1926. Et dans le Loiret, je ne sais pas à quelle époque ils sont installés dans le Loiret, mais c'est très très vieux, c'est bien avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'est peut-être aux environs de 1930, quelque chose comme ça.
D'où viennent les matières premières?
Alors, les matières premières, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, les principales matières premières viennent de la région, tous les matériaux, ce qu'on appelle les granulats, tous les dérivés de roches, ou d'alluvion viennent de la Loire. Mais vous avez des matières premières tout à fait spéciales qu'on ne trouve pas dans le pays. Alors, vous avez des roches diorétiques qui viennent du département des Deux-Sèvres, parce qu'on n'en trouve pas dans la région. Ça, c'est une question de géologie. Vous avez les produits bitumineux qui viennent de raffineries. Il n'y a pas de raffinerie dans le Loire. Et les raffineries sont... en général, dans la vallée de la Seine, dans l'estuaire de la Gironde. Ils ont placé les raffineries près de grands ports. Alors nous, on se ravitaille dans la région de Rouen, ce qui est des bitumes. Vous avez des produits spéciaux, des produits pour fabriquer des émulsions, qui sont des produits chimiques, qui viennent d'industries de produits chimiques qui sont établies dans le Nord. Tous les autres produits, non, j'en sais rien. Il faudrait que j'ai la liste des matières premières. Le fioul, évidemment, dont on fait une grosse consommation, vient des raffineries aussi. Alors, disons, si vous voulez, pour résumer, tous les produits de la région que l'on peut utiliser sont employés. D'abord, en priorité. Alors, les produits que l'on ne trouve pas dans la région, alors on se les procure. Soit dans le Nord, soit dans l'Est, enfin suivant les sources d'origine de ces matériaux, de ces produits.
Est-ce que ça veut juste dire que c'est à cause de la continuité de beaucoup des matières premières que la maison s'est installée?
Ah non, absolument pas. Absolument pas, la région s'est... Alors la raison pour laquelle on s'est installé à Orléans, je n'en sais rien. Tu sais pas, on s'installe à Orléans comme on s'installe à Niort ou à Angoulême. On cherche des points de chute pour essayer de développer une activité. ça marche ou ça ne marche pas. Hein, si l'activité est bonne, on reste, on s'implante. Si on s'aperçoit que c'est une erreur de vouloir s'implanter dans telle région, on abandonne. Disons qu'on a une période pendant laquelle on s'implante d'une façon très provisoire, et puis c'est ensuite le courant des affaires qui nous incite soit à rester, soit à s'en aller.
Quels sont les moyens de transport que vous utilisez pour faire
venir vos matières premières? Alors les matériaux que l'on trouve dans la région sont transportés par camion. Les matériaux qui viennent des Deux-Sèvres sont transportés par chemin de fer. Les bitumes sont transportés par camion aussi, par camion-citerne. Alors, vous avez, par bateau, c'est assez rare. Il faut vraiment que l'on ait de très gros approvisionnements et peu pressés. Oui. Alors, on peut faire que des approvisionnements par bateau, cela arrive, et puis il faut qu'on ait des endroits pour décharger. Alors, disons, à Orléans, il n'en est pas question, puisqu'il n'y a rien. Il n'y a pas de, le fleuve n'est pas navigable. Il n'y a pas de canaux, mais dans la région de Briard, il y a le fameux canal de Briard, et on a déjà reçu des matériaux par bateau. Alors là, il faut vraiment qu'on ait les commandes longtemps à l'avance, qu'il n'y ait pas de délai impératif. Alors là, le transport par voie d'eau est plus économique. Mais disons, en général, le camion à 70%, 70-75%, et le chemin de fer à 25-30%.
Je vous ai demandé ensuite dans quel rayon est-ce que vos activités s'étendent.
Dans quel rayon? Dans la région. Mais c'est le département du Loiret, le nord du département de la Nièvre. Mais la société a évidemment beaucoup d'autres activités. Moi, c'est ma direction comprend le Loiret, le nord de la Nièvre et une petite incursion dans l'Yonne.
Et les autres établissements de l'entreprise, quels sont les mêmes travaux?
Non, c'est en gros les mêmes travaux. En gros, les mêmes travaux, un peu de choses près. Toutes les sociétés du groupe sont des sociétés routières, d'ailleurs. Et on peut dire qu'on fait à peu près tous le même travail. Donc, c'est-à-dire, ça dépend des régions. Il y a des gens qui ont des... Et ça dépend également des gens qui sont à la tête des directions. Vous en avez qui sont... qui aimeront faire beaucoup de béton, d'autres qui aimeront faire beaucoup de terrasson. Mais dans l'ensemble, c'est à peu près la même activité.
Est-ce que vous avez des rapports entre les sections d'entreprise et les
gouvernements? On a des rapports, nous, à l'échelon direction, entre les directions régionales des autres membres de la société. On se réunit à peu près une fois tous les deux mois.
Est-ce que vous pourriez me donner peut-être une idée des chiffres de production? Je ne sais pas à quoi vous mesurez ça, kilomètre carré ou...
Non, on n'a pas de mesure précise en mètres carrés, on a des mesures de tonnage. Alors ça, je ne les ai pas en tête. Disons que l'on fait environ 120-130 000 tonnes de matériaux en B. On fabrique 10 000 tonnes d'émulsion. En granulat, on doit traiter dans les 500 000 tonnes par an, de granulats divers, c'est tous les cailloux, ce qu'on appelle les cailloux vulgairement. À peu près 500 000 tonnes, oui. Mais en mètres carrés, non. Ça ne se fait pas chez nous, c'est très rare.
Qui sont vos principaux clients?
Les principaux clients, alors vous avez les ponts des chaussées qui entrent pour 20%. Les autres administrations, la SNCF, le ministère de l'Éducation nationale, pour... J'ai des statistiques que je n'ai pas en tête. C'est peut-être dans les 15 à 20%, quelque chose comme ça. Il y a les municipalités, les communes, peut-être à peu près dans les 20% aussi. Et le reste est en travaux particuliers. Peut-être à peu près 50% de travaux particuliers, 45-50% de travaux particuliers. Mais dans les travaux particuliers, on comprend les grands ensembles tels que les HLM, les grands ensembles immobiliers qui sont sous la dépendance d'architectes. Ce ne sont pas des... On appelle ça, nous, travaux particuliers, mais enfin, ce n'est pas tout à fait ce qu'on pourrait penser. Ce n'est pas la cour d'école, ce n'est pas la cour d'une ferme. Ça peut être également un très grand ensemble. Actuellement, on fait des travaux, on est en train de faire des travaux sur la Banque nationale, la BNP, la Banque nationale populaire, c'est très grand. Vous avez des ensembles de supermarchés également, qui sont importants. On appelle ça clients particuliers. C'est-à-dire ce sont des clients qui ne sont pas des représentants d'administration, en fait.
Est-ce que vous avez l'occasion de faire de la publicité ?
On fait de la publicité dans les revues spécialisées, dans la revue de la route, route et aérodrome. On a toujours une page de publicité.
Est-ce que, pour parler maintenant des techniques, des méthodes, est-ce que les techniques ont beaucoup changé maintenant depuis la guerre ?
Depuis la guerre, oui. Depuis la guerre, la technique a beaucoup changé et disons que ce n'est pas la technique elle-même qui a évolué, elle était obligée d'évoluer parce que le matériel a changé. Il y a eu une évolution très nette dans les types de matériel et c'est grâce au matériel qu'on a pu modifier la technique. Mais disons que la base de la technique elle-même n'a pas tellement changé. C'est grâce au matériel. Alors vous avez des améliorations très très nettes. Alors, entre le 1945 et 70, il y a des modifications énormes, en particulier sur les rendements. Là où on faisait 100 tonnes dans la journée, on en fait facilement 3000 maintenant.
Est-ce que ces progrès ont entraîné des problèmes d'adaptation du personnel,
oui et non. Oui et non, on trouve de moins en moins de ce qu'on appelle des manœuvres, des gens à tout faire qui maniaient la pelle et la pioche. On en trouve de moins en moins et on en a besoin de moins en moins. Alors en fait, l'un rejoint l'autre. Où on a des difficultés, c'est à trouver des conducteurs d'engins spécialisés. De bons conducteurs d'engins qui connaissent bien l'utilisation de leur matériel. Ça pose quand même certains problèmes.
Vous ne les formez pas sur place ?
Si, ils sont tous formés sur place.
Est-ce que vous
bénéficiez
d'une aide financière, par exemple l'État ?
Non, absolument pas.
Et si vous vouliez établir une filiale petite distance, c'est toujours l'affaire de la maison.
Ah, c'est toujours l'affaire de la maison. Toutes les filiales que nous avons établies sont des affaires de la maison.
Est-ce que la ville, le département, le gouvernement pourrait vous aider ?
Alors là, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Il pourrait peut-être, mais il ne le fait pas. Ce ne serait pas une bonne solution.
Non. Ou bien, dans le sens contraire, mettre un frein à vos activités ou les contrôler.
Non, l'État ne peut rien faire. Nos activités sont contrôlées par le marché lui-même, où il y a beaucoup d'affaires, où il n'y en a pas beaucoup. Mais l'État ne peut pas nous empêcher de prendre des affaires. Et lorsqu'il n'y en a pas, il ne peut pas nous en donner.
Pour revenir à cette question du personnel, combien de personnes travaillent dans l'établissement ?
Ici, sur Orléans, près de 300.
Et quelles sont les différentes catégories d'employés ?
Vous savez, il y en a beaucoup. Il y a les employés administratifs. Alors, il y a d'abord les cadres, évidemment. Il y a d'abord les cadres, il y a les ingénieurs et cadres, il y a les employés administratifs, et puis il y a les conducteurs de travaux, les chefs de chantier, les conducteurs de camions, les conducteurs d'engins, et puis les maçons, les ouvriers spécialisés, et les manœuvres. Vous voyez, il y a une gamme très très étendue, qui est très difficile à... très souvent d'ailleurs, est très difficile à... à déterminer avec exactitude.
Comment est-ce que les salaires ou les traitements sont fixés ?
Les salaires et traitements sont fixés par une grille qui est fixée, elle, par une convention collective et avec des avenants qui sont faits au cours de réunions paritaires entre les syndicats et les représentants des sociétés du patronat.
Oui. Vous êtes libre de donner plus que la moyenne ?
Ah oui, on est libre de donner plus, mais on n'est pas libre de donner moins.
Ça vous arrive d'en être plus?
Vous savez, c'est très difficile parce que, non, ça nous arrive de donner plus, oui, mais il y a une question qui intervient, c'est la classification de l'ouvrier. Alors, il est quelquefois très difficile de vraiment classer un ouvrier. Vous avez des classifications qui sont manœuvre 1, manœuvre 2, ouvrier spécialisé 1, ouvrier spécialisé 2, 3, ouvrier qualifié, etc. Disons que c'est très difficile de classer les gens. En général, ils sont payés plus suivant les services qu'ils rendent que suivant leurs propres qualifications.
Est-ce que vous trouvez facile de les recruter, les ouvriers?
De les
recruter. Les
ouvriers spécialisés ne sont pas faciles à recruter. Il n'y en a quand même pas tellement. C'est assez rare maintenant. Surtout les conducteurs d'engins, les bons maçons.
Évidemment.
La concurrence en a besoin aussi. Et ce sont les gens les plus précieux.
Oui. Vous avez dit que vous les formez sur place.
Oui, on en forme beaucoup sur place, mais enfin, il y en a beaucoup qui s'en vont une fois qu'ils sont formés.
Il arrive que l'ouvrier reste pendant longtemps.
Oh, nous, on en a qui sont là depuis plus de 20 ans.
Oui.
On a pas mal qui sont là depuis plus de 20 ans. Oh, oui.
Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, on aura beaucoup d'enseignements techniques? Vous trouverez des ouvriers déjà plus formés au début?
Je crois que c'est un problème d'ailleurs qui n'a pas échappé à notre syndicat. On peut dire que. Il n'y a pas tellement d'écoles de formation technique du bâtiment et des travaux publics, alors qu'il y en a pas mal dans l'industrie. Et on n'a pas d'ouvriers vraiment qualifiés à cause de ça, parce que l'enseignement technique est assez faible sur le plan national.
Est-ce que vous avez parlé du syndicat, est-ce que ça intéresse votre syndicat ou la direction?
Ça intéresse le syndicat patronal, je crois. C'est au syndicat patronal de faire l'effort pour demander au gouvernement de faire des écoles d'apprentissage, ou même comme certaines sociétés importantes, Renault, Citroën, qui ont leurs propres écoles. Oui. Renault a ses propres écoles d'ouvriers, et sont très très bien, même d'ailleurs qui vont plus loin que l'échelon ouvrier. Ah, ils ont leurs écoles qui sont aussi bien que les écoles du gouvernement, aussi bien, qui enseignent exactement les mêmes matières.
Oui, à partir de quel âge?
Je crois que ça doit être à partir de 16 ans, je crois.
Oui.
Après l'école primaire. Oui. Ce sont d'excellentes écoles professionnelles.
Ces entreprises, diriez-vous qu'elle est petite, moyenne ou grande?
Alors là. Tout est relatif. C'est la plus grosse entreprise du Loiret, c'est peut-être la plus petite. À un autre échelon, l'entreprise elle-même, moi je dépends d'un groupe d'entreprises. Disons que nous sommes à l'échelon national, dans les travaux publics, on doit être du deuxième ou troisième à l'échelon national. Mais en fait, cette puissance, et l'accumulation de puissance d'un tas de petites entreprises comme la mienne.
Est-ce que vous souhaiteriez agrandir davantage?
Ça, c'est un problème difficile. Nous agrandissons parce que nous augmentons à peu près de 10 à 15% tous les ans. Depuis quelques temps, mais ça pose beaucoup de problèmes, en particulier des problèmes financiers. Alors on n'a pas intérêt à se développer énormément.
Oui.
Autrement, on risque d'avoir de graves problèmes financiers et de se retrouver absorbés par un groupe plus puissant.
Il paraît que c'est la marche, que c'est ce qui se fait énormément maintenant. Et justement, j'allais vous poser une question sur les petites entreprises qui, elles, ont tendance à s'inquiéter énormément.
Oui, bien sûr, parce que les petites entreprises n'ont pas de potentiel matériel et financier comme le nôtre. Parce que nous sommes quand même, dans l'ensemble, une grosse entreprise, puisqu'on doit être deuxième ou troisième dans des bâtiments de travaux publics. Mais les petites entreprises ont de gros problèmes financiers, ça, incontestablement.
Je pense que ça doit frapper plus particulièrement Orléans, parce que la liste des entreprises comprend un très grand nombre qui ont moins de 50 salariés.
Ah oui, oui certainement. Oui. Surtout dans la profession des travaux publics. Il y en a même qui ont 10-15 ouvriers.
Oui.
Ah oui. Alors, ce sont des entreprises qui vivotent à longueur d'année.
Les entreprises familiales sont...
Presque toujours.
Oui.
Presque toujours.
Oui. Alors, vous ne voyez pas un futur très brillant?
Non, pas du tout. Non, je pense pas. Je pense pas. Parce qu'il faut un tel potentiel matériel maintenant. Et il m'étonnerait beaucoup qu'elle puisse résister longtemps. Et pour augmenter son potentiel matériel, il faut des capitaux.
Est-ce que chez vous, c'est le travail d'initiative personnelle qui compte ou le travail en équipe?
L'initiative personnelle, je n'aime pas tellement. Je trouve que le travail, ce doit être plus scientifique et étudié. Mais je n'aime pas l'initiative chez les gens. L'horreur de l'initiative n'appartient qu'aux gens désorganisés.
Oui, donc les initiatives viennent d'assez haut.
Ah oui, d'assez haut, oui, mais pas un échelon, bon, pas l'échelon plus bas. L'échelon plus bas, il ne doit pas y avoir d'initiative. Je pense pas. Je suis contre l'initiative.
Cela entraînerait des ennuis, évidemment. Est-ce que vous voudriez expliquer de quel genre?
Eh bien, je dis que quelqu'un qui a beaucoup d'initiatives, c'est en général une personne qui est mal organisée, qui n'a pas pensé son travail, pensé avant, et qui est obligé de prendre l'initiative parce qu'il n'a pensé à rien. Alors qu'une personne bien organisée n'a pas d'initiative à prendre puisque tout est programmé. C'est le principe d'ailleurs de toutes les grandes réalisations modernes, elles sont pensées avant, il n'y a pas d'initiative. Et je suis absolument contre.
Eh bien, cela termine à peu près, je pense, oui. La liste de questions que j'avais à vous poser.
Oui. Je crois que c'est un grand problème, l'initiative. D'ailleurs, chez nous, chez les Latins en particulier, ils sont des gens très brillants, avec beaucoup d'initiatives, mais dans un désordre le plus complet. Et c'est pour ça qu'ils ne réussissent pas. Je préfère les méthodes anglo-saxonnes.
Oui.
C'est moins brillant, peut-être, mais c'est plus sûr.
Vous devez aller à votre disposition un complexe
d'ordinateurs actuellement en train de faire toute l'étude complète de la maison sur ordinateur. Actuellement, c'est parti.
Mm-hmm.
Alors, ça va nous demander à peu près 2 ans d'études.
Mm-hmm.
C'est absolument indispensable.
Eh bien, c'était vraiment des questions...
Indispensable.
Je voulais vous poser, oui, vous n'avez pas quelque chose, une réflexion personnelle à ajouter, quelque chose que... Vous auriez pensé que peut-être je vous allais vous demander et que je n'ai pas fait?
Non, je ne savais pas du tout. Vous m'aviez posé déjà un tas de questions la dernière fois, enfin pas vous, mais un monsieur qui était venu, très gentil d'ailleurs. Je ne savais pas du tout la raison pour laquelle vous veniez. Je ne savais pas que vous aviez encore des questions complémentaires à me poser. Lorsque ce monsieur était venu, c'était sur un plan beaucoup plus général.
Oui. Il faut en vouloir votre amabilité, je pense, puisque on s'est permis encore une fois de se
retrouver. Oui, c'est bien fait.
Eh bien, j'ai également ici une liste de renseignements que nous tâchons d'avoir. Voyez-vous, nous essayons d'établir une étude assez complète sur une période de 3 ans.
Mmh. Oui, que je vous remplisse.
Est-ce que vous serez possible de...
Oui, oui, bien sûr.
Oui. Et en bas, vous voyez qu'il nous serait très très précieux d'avoir des exemples de documents. Par exemple, le journal de la maison, documentation.
Qu'est-ce que vous appelez le journal de la maison?
Certaines maisons ont un journal qui est en main, qui circule pendant.
Non, pas nous. Nous, on a des comptes rendus, mais ce sont des comptes rendus purement techniques.
Quelque chose de très simple qui existe certainement, ce sont des exemples de fiches, de formulaires que vous utilisez.
La documentation publicitaire, on vous en donnera, je dois en avoir. Si j'en ai pas, je m'en procurerai. L'histoire de la maison depuis sa fondation, alors là, je dois dire que, faudra que je demande aux vieilles personnes du siège qui me fassent l'historique de la maison, car je ne la connais pas. Je sais que ça a été fondé en 1926, mais ils ont racheté une petite entreprise familiale qui existait, je crois.
Le nom vient du ciel d'initial, c'est le futur d'Albert.
Alors, je n'en sais rien, et je crois que personne n'en sait rien. Je crois que ça, c'est parce que ça sonnait bien.
Oui.
Il y a beaucoup de gens qui cherchent une origine latine. Je ne pense pas qu'il y en ait d'ailleurs.
Non, non. Ça se prononce comment ?
Salviam.
Oui, d'accord.
Ça devait plaire aux gens.
On cherche des noms.
Donc, est-ce que vous voyez la même de fournir. Ils ont peut-être des idées d'avoir des fiches qui ont déjà servi. Je pense que c'est tout être classé pendant un certain moment.
Qu'est-ce que vous voulez comme fiche ?
Il y a toutes sortes de choses. C'est une documentation visuelle que nous cherchons.
Une fiche de travail mais je ne peux pas vous donner des fiches qui ont servi, mais je pourrais vous donner des fiches vierges. Parce que les fiches qui ont servi sont classées.
D'accord.
Mais je pourrais vous donner des bulletins de commande, instructions, fiches de travail, etc. Oui, je pourrais vous en donner.
Merci beaucoup.
Vous voulez que je vous prépare ça ?
Je
pourrais vous faire un.
Oui,
ou vous envoyez quelqu'un.
Ça, oui.
Il va falloir que je plonge dans tous les documents de la maison, que je ne connais pas, je ne les connais pas tous.
Eh bien, je vais noter cela et je vais
demander. Si, je vous en préparerai. Hein.
Oui. On pourrait repasser dans combien de temps ?
Oh, à la fin de la semaine, je passe à samedi. Samedi matin, je suis tranquille.
Oui.
Hein, à samedi matin.
Je pense que je vais peut-être vous demander ce que vous cherchez. Quelles sont les qualités que vous recherchez quand vous prenez quelqu'un ?
L'ordre et la méthode.
Oui. À
toutes les échelles. À toutes les échelles, oui. Aussi bien sur un chef de chantier qu'un ingénieur.
Oui.
Ils n'ont pas à résoudre les mêmes problèmes, mais c'est une question de pensée. Il faut penser, s'organiser.
Oui.
L'ordre et la méthode, on la retrouve partout, même chez un ouvrier, d'ailleurs.
D'accord.
Les gens désorganisés sont des gens excessivement dangereux. Très dangereux.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il peut arriver que à l'échelle la plus basse, disons, là, sur le chantier, quelqu'un voit mieux peut-être une méthode de mettre.
Oui, il peut voir dans les détails, parce que les gens qui sont sur les chantiers voient les détails beaucoup mieux que nous. Alors il faut tenir compte de leur avis,
oui.
Bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter des initiatives à longueur de journée. Et d'ailleurs, en général, ce n'est pas une initiative qui. C'est une façon de travailler ou d'exécuter un travail qui peut servir par la suite, qui peut nous servir par la suite. Mais alors, il ne faut pas refuser ce que peuvent vous apporter les autres personnes qui sont en dessous de vous, au contraire. Il faut même les aider. Mais j'entends par initiative, c'est-à-dire que très souvent, ce sont des gens qui ne sont pas organisés, qui arrivent dans une bagaille infernale et qui prennent l'initiative pour en sortir, parce qu'ils sont devant le problème. Alors que ce problème-là, s'ils avaient été plus méthodiques, ils l'auraient peut-être vu avant. C'est pour ça qu'il est très difficile d'organiser.
Oui.
Parce qu'il faut penser à tous les problèmes.
Oui.
Je n'aime pas l'initiative. Ça, alors là, je suis contre. Je sais, un jour, j'avais mal noté un conducteur de travaux. J'avais marqué beaucoup d'initiatives et une très mauvaise note. Et on m'avait demandé pourquoi.
Ça vous arrive d'aller sur les lieux même pour voir ce qui se passe ?
Ah, je tout le temps, tous les jours.
C'est votre travail.
Ah oui, bien sûr. Oui. Ah, ça, je dois y aller tout le temps.
Oui. Alors,
je ne vais pas partout parce que je ne peux pas tout voir, mais enfin, sur les travaux les plus importants, j'y vais au moins une fois par semaine sur chaque chantier important.
Oui. Les conditions de travail sont. Un travail assez dur, finalement.
C'est assez dur, oui. C'est assez dur parce que, comme tous les travaux au grand air, on subit les intempéries. Et même ce qu'on n'appelle pas intempéries, le soleil, la chaleur, on n'appelle pas ça intempéries, mais c'est quand même extrêmement pénible. C'est aussi pénible que la pluie et le froid. La semaine dernière, il faisait excessivement chaud et lourd. C'était certainement très pénible pour travailler dans ces conditions-là.
Vous prévoyez des instants de repos.
Oh, les gens sont assez libres de prendre des instants de repos sur le chantier. Oui, ils ont quand même certaines libertés.
Vous n'avez pas des ennuis avec les ouvriers?
Absolument pas. Absolument aucun. Il y a eu une grève générale il y a 15 jours. Les gens ici n'ont pas fait grève.
Ah non?
Non, non.
Ils sont syndicalisés?
Oui, 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 ils sont syndiqués, oui. Oui, oui. Oui, oui.
Ça, c'est une question assez intéressante aussi.
Les syndicats, oui. Oui. Vous savez, le syndicat en France a été mal pris parce que ce sont des syndicats politiques. Alors, on ne sait jamais si c'est vraiment pour défendre des droits, pour défendre la profession, ou si c'est pour défendre un parti politique. Je crois que c'est le grand malheur des syndicats français, qui suivent beaucoup plus des directives politiques que des directives syndicales.
Oui.
Alors, en fait, on ne les prend plus au sérieux.
Oui. Et ils sont assez fragmentés aussi. C'est-à-dire qu'il y a toute une série selon les adhésions politiques.
Oui, il y a pas. D'ailleurs, tous les syndicats sont rattachés, sont d'une obédience politique quelconque. Il y a la CGT, c'est le Parti communiste, la CFDT, j'en sais rien, d'ailleurs, c'est un autre parti politique.
Alors,
il n'y a pas de syndicat qui soit vraiment autonome.
Alors, vous ne pouvez pas. On ne se trouve pas. Je recommence. Plusieurs syndicats peuvent être représentés ici. Au sein de la
il y a plusieurs syndicats, oui, parce qu'il y a des élections
pour
le même travail, oui, mais alors vous en avez une partie qui sont CGT, une autre partie qui est CFDT ici.
Et une grève générale est une grève appelée par tous les syndicats, d'accord?
Bien, les syndicats peuvent se mettre tous d'accord pour déclencher une grève, ou au contraire, c'est un syndicat qui demande la grève, alors à ce moment-là, les syndicats CGT font la grève et pas les autres. C'est bien pour ça que ce n'est pas très sérieux.
Je pense.
C'est pas sérieux.
Oui. Non, pas. C'est une situation à l'opposé de ce qui se passe en Angleterre.
Oui.
Voilà, c'est assez peu politique.
Mais aux États-Unis aussi, c'est absolument apolitique. Et je crois que c'est la meilleure méthode. C'est la meilleure façon de pouvoir défendre ses intérêts. Parce que lorsque les gens déclenchent une grève, c'est vraiment dans l'intérêt de leur profession et non dans un intérêt politique inavoué. Et je crois que leur obédience politique a fait beaucoup de tort à tous les syndicats français. Et d'ailleurs, c'est assez curieux parce que je crois que dans tous les pays latins, les syndicats sont rattachés à un parti politique, en Italie aussi, alors que dans les pays anglo-saxons, ils ne sont pas. C'est bien la grande différence d'ailleurs, c'est assez curieux.
Pour les cadres supérieurs, vous devez avoir énormément de personnel. D'ingénieurs, personnes qui ont une formation technique.
Oui.
Où est-ce que vous voulez les chercher?
Ah ben dans les écoles spécialisées, vous avez l'école des ponts et chaussées, l'école des travaux publics, et puis pour tout ce qui touche le matériel, il y a des écoles mécaniques comme les arts et métiers, par exemple.
Oui.
Alors, chacun est dans sa branche.
En général, ce sont des écoles publiques.
Ah oui, oui, oui.
Mais c'est
vous avez... J'ai arrêté, il y a une école qui est une école catholique, l'Institut catholique des arts et métiers à Lille. Il y a un institut catholique qui professe exactement les mêmes cours que l'enseignement public. Il y a également il y a très bonnes écoles, ce qu'on appelle les écoles libres, très bonnes. Mais enfin, disons que 95% ce sont des écoles de l'État.
Est-ce que... Il y a assez d'ingénieurs ayant une formation suffisante?
Oui, tout dépend. Vous avez la formation d'ingénieur, quand on sort de l'école, on connaît tout et on ne connaît rien du tout. Disons qu'on a les éléments de base qui nous permettent d'apprendre. C'est ça une école. C'est une formation de l'esprit qui vous permet d'apprendre par la suite. Mais évidemment, quand vous sortez de l'école, vous ne savez absolument rien. C'est au contact de l'entreprise que vous commencez à apprendre. Et au contact de l'entreprise ou de l'administration, puisqu'il y a des ingénieurs dans l'administration et qui apprennent également leur métier au contact de leur administration.
Oui, est-ce que vous recherchez quelquefois des cadres pour le commerce ou l'administration?
L'administration.
Formés déjà.
Ah oui, 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 bien sûr, pour l'administratif.
Si,
parce qu'on a des activités, on n'a pas uniquement l'activité de travaux publics, on a à l'intérieur de l'entreprise, il y a une direction commerciale, il y a une direction administrative, une direction financière. Alors là, on prend des spécialistes. On essaye de prendre des spécialistes dans chaque branche, comme chez nous ici, un ingénieur mécanicien, parce qu'il y a un gros parc matériel et il y a besoin d'un spécialiste du matériel qui ne connaisse pas les travaux publics, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'on lui demande, c'est de connaître le matériel.
Oui. Et pour l'avancement, est-ce que réadaptabilité d'une entreprise à une autre, c'est ce qui se passe ?
À l'intérieur du groupe, on peut être muté. Il y a deux sortes de mutations. Il y a les mutations à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire de, par exemple de la direction d'Orléans à la direction de l'Est ou de Niort ou de Bordeaux. Alors ça reste à l'intérieur de la Salviane. Mais vous avez également une mutation qui peut inter-entreprise du groupe, c'est-à-dire de la Salviam à l'entreprise Jean Lefebvre, hein, Roveto, qui font partie du groupe.
Mais quelles sont les autres entreprises du groupe ?
Alors le groupe, c'est le groupe Jean Lefebvre. Vous avez l'entreprise pilote, l'entreprise mère, c'est l'entreprise Jean Lefebvre, qui est du nom de M. Jean Lefebvre. Vous avez Manin et Moser. Moser, lui... Moser fait des plantations surtout. C'est un paysagiste. Et Roveto, un peu comme, exactement comme la Salviam, c'est une entreprise similaire. Et la Salviam, vous avez Terrassement Génie Civil, qui fait le même travail que la Salviam sous un nom différent. Et l'entreprise Brun et l'entreprise Fantini. L'entreprise Fantini qui fait des travaux et également des exploitations de carrières. Et puis à l'étranger, alors il y a une filiale Corviam, qui est une association entre la Salviam et une entreprise espagnole. Ils ont formé une société.
Oui, ces entreprises se sont rattachées petit à petit à l'entreprise centrale.
Au point de vue gestion propre, non, chaque entreprise a sa propre gestion, mais financièrement, c'est rattaché à l'entreprise mère.
Oui, mais je voulais dire, au point de vue financier...
C'est rattaché à l'entreprise mère,
oui,
bien sûr.
Alors, est-ce que tous les ans, on voit s'attacher encore un groupe, parce que l'année dernière,
c'est très bon. Non, pas tellement en ce moment, non. Non, non. Ils ne font pas d'achat d'autres sociétés.
Mais ce groupement s'est fait pendant sur quelle période ?
De 45 à 58, disons 45 à 60 à peu près.
Oui.
C'est depuis 5-6 ans, il n'y a plus de nouvelles sociétés dans le groupe.
Je ne vous avais pas posé question sur la planification. Est-ce que les initiatives pour de ce côté-là vous intéressent ?
Je pense bien. Si la planification gouvernementale était faite sérieusement et par des gens sérieux, ça pourrait être très intéressant.
D'accord ?
Pas très sérieux. Absolument pas. On ne peut pas savoir les programmes de l'année, alors il était très difficile de connaître les programmes de l'année prochaine, alors qu'on aurait besoin de connaître les programmes dans 5 ans. Ceci vient de la distribution des crédits qui est faite à l'échelon national, au ministère de l'équipement, et c'est un peu différent de ce qui se passe aux États-Unis, où par exemple l'État de Californie a ses ressources pour les ponts et chaussées qui sont données par l'impôt sur la consommation des carburants. Vous avez un impôt sur la consommation des carburants qui est intégralement versé aux ponts et chaussées. Et aux États-Unis, c'est intégral, c'est 100%. Alors, un ingénieur de Californie a autant de véhicules dans son état. Dans 10 ans, il aura autant de véhicules, il peut déjà planifier ses travaux. Il peut dire, dans 10 ans, j'ai actuellement 10 milliards de recettes, l'année prochaine, j'en aurai 11, dans 10 ans, j'en aurai 14. Donc, je peux faire un programme étalé sur 10 ans. Le département du Loiret, lui, a 1 milliard de crédits cette année. L'année prochaine, il en aura 5 ou il n'en aura pas. Il suffit qu'il y ait, au lieu d'un député UDR, qu'il y ait un député communiste ou vice-versa, qu'il y ait un ingénieur en chef mordant ou pas, il aura des crédits ou il n'en aura pas. C'est ce qui se passe actuellement pour la Lorraine, où c'est très flagrant, il y a eu cette élection à Nancy. Avec Servan Schreiber et Souchal, on a fait un battage terrible sur ce problème de déviation de l'autoroute de l'Est, eh bien, on a fait une bretelle. On a dit, bon, on décide de faire un raccordement, de faire une bretelle pour Nancy. Alors que ce n'était pas prévu dans le programme. Mais comme les gens osent péter, on leur a fait une bretelle. Alors peut-être que si un jour les gens du Loiret font des grandes manifestations, ils auront peut-être des travaux, ils auront peut-être une autoroute, ils auront peut-être quelque chose. Alors ça, c'est pas sérieux.
D'accord.
Absolument pas sérieux.
À ce moment-là, les entreprises se trouvent
dépourvues de... Sinon, on n'a pas de plan.
Planifié à l'avance.
Absolument pas. Et de toute façon, lorsqu'on a un plan, on n'y croit pas tellement.
Parce que ça peut changer.
Mais ça peut changer du jour au lendemain. Du jour au lendemain, même pas d'une année sur l'autre, mais du jour au lendemain. On a eu le cas ici sur la Nationale 20 qui devait être élargie à 4 voies, et puis après elle n'était plus qu'à 3 voies, puis après elle était à 3 voies, puis à 4 voies, et maintenant elle est revenue à 3 voies, et peut-être que la semaine prochaine on en fera 4, on n'en sait rien. Ah, c'est absolument pas sérieux.
Oui.
Ceci vient de notre système. Là aussi, c'est un système politique d'attribution des crédits. C'est un sujet plus politique qu'économique.
Et pourtant, vu de l'extérieur, la planification française me paraît quelque chose extrêmement bien.
Paraît sérieux. C'est pas très sérieux, parce que quand on veut faire des autoroutes, on est obligé de faire appel à des sociétés privées, alors ça me semble pas très sérieux. Faire des autoroutes, c'est le travail de l'État, c'est pas le travail des privés.
D'accord.
Les privés payent une redevance sur le taux de l'essence pour faire des autoroutes et entretenir les réseaux, et en plus, ils vont construire des autoroutes et ils vont payer. Alors tout ça, ça me semble pas sérieux.
Mais...
Chez vous, il n'y a pas d'autoroute privée, il n'y a pas d'autoroute à péage. On retrouve ça que dans les pays latins.
C'est vrai. Oui.
Ah, mais ça, c'est tout à fait dans l'esprit latin.
Oui. Alors, c'est l'entreprise qui
va financer. L'entreprise qui va payer le financement des travaux.
Oui.
Ça, c'est pas sérieux.
Mais c'est le travail des autoroutes est un travail tellement énorme qu'il faudrait...
Ben, oui et non, c'est-à-dire que vous avez une redevance sur l'essence qui doit être de 76 centimes le litre. Sur les 76 centimes, l'État n'en reverse que 24. Ben, si on faisait ça aux États-Unis, il y aurait une révolution immédiate. En France, l'État prélève sur les 76 centimes, doit en prélever 50 pour lui, personne ne dit rien. Et puis le jour où il décidera d'en prélever 60, il en prélèvera 60. Mais je ne vois pas le gouvernement des États-Unis faire la même opération. Je pense que ça irait vraiment très très mal. Si toutes les redevances sur l'essence, sur les carburants allaient au fond des chaussées, il n'y aurait aucun problème.
Oui, d'accord.
Si.
Mais finalement, une entreprise d'intérêt privé, il est là pour son bénéfice.
Oui.
Si l'État a assumé la charge de... toutes ces constructions-là, je pense que les patrons pourraient respecter, on ne sait pas, on créerait au communisme.
Je ne comprends pas, si l'État...
Eh bien, si l'État...
Mais non, mais l'État ne construit pas. L'État fait construire, lorsqu'on fait une autoroute, c'est l'État qui est ce qu'on appelle le maître de l'ouvrage, mais ensuite, il confie les travaux à une entreprise.
D'accord.
Pour un montant déterminé par adjudication. L'État n'est pas entrepreneur, bien qu'en France, dans certaines parties, l'État fait également des travaux, c'est-à-dire l'État est son propre entrepreneur. Là, on peut crier au communisme.
Oui, justement. Alors, est-ce que j'ai bien compris que les autoroutes, c'est la péage, sont la propriété de l'entreprise privée, non ?
Lorsqu'elles seront construites, par l'entreprise privée, ces autoroutes à péage seront en concession pendant 30 ans à l'entreprise qui a financé les travaux. Et après 30 ans, l'État reprendra pour lui ces autoroutes.
Oui, à ce moment-là, abolir le péage.
Ah, absolument pas, on n'abolit pas un péage. Jamais. Alors, il faut que les entreprises privées calculent leur prix de revient de construction d'autoroute de façon à se faire rembourser en 30 ans. Donc, c'est l'entreprise privée qui prend tous les risques.
Oui.
Puisque l'État, de toute façon, ramassera au bout de 30 ans, dira ça c'est à moi par contrat, maintenant vous avez gagné ou perdu, tant pis pour vous. Enfin, puisque le contrat a stipulé qu'après 30 ans c'était la propriété de l'État, je le prends et je fais payer toujours le péage, évidemment.
Bon.